Chapitre 7. Vous devez être surprise que tous ces détails soient arrivés jusqu'à moi, cher enfant, reprit Lady Ludlow, après avoir arrangé les coussins qui me soutenaient. Mais l'année qui précéda la mort de mon mari, je voyageais dans le Devonshire avec Milord. L'idée nous vint d'aller visiter les prisonniers de guerre français casernés à Dartmoor, et l'un d'eux, avec qui nous liâmes conversation, était précisément le fils de Madame Babette, ce petit Pierre qui avait joué un si grand rôle dans l'histoire que je vous raconte. C'est par lui que j'ai su tout ce qui me reste à vous dire, et j'avoue qu'il m'inspira une vive compassion pour les acteurs de ce drame terrible. Même pour ce Jean Morin, dont il parlait d'une voix émue, bien que les événements dont il m'entretenait fussent passés depuis longtemps. Lorsque le neveu de Madame Babette vint à la loge de sa tante le soir du jour où Virginie avait vu son cousin pour la première fois, il fut frappé du changement qui s'était opéré chez la jeune fille. Non pas qu'il la trouvât plus belle qu'à l'ordinaire, il en était arrivé à ce point où l'amoureux ne voit plus l'objet aimé qu'à travers un prisme dont rien ne modifie la puissance. Mais il remarqua la teinte rosée qui colorait les joues de Mademoiselle Cane, habituellement si pâle. Il lui sembla qu'elle avait dépouillé son linceul et qu'elle revenait à la vie. Or, s'il avait respecté sa douleur jusqu'à ne pas oser lui adresser la parole, maintenant il la voyait renaître à la joie. Le pauvre amoureux sentait son cœur se dilater, et l'espérance grandit tout à coup dans son âme. Le temps, même au fond de cette loge indigne, commençait la guérison de l'affligé. Pourquoi ne pas l'aider humblement dans cette œuvre consolatrice? Le lendemain, il revint à l'hôtel sous un prétexte quelconque, et fit à la loge de sa tante bien plus qu'à Madame Babette, elle-même, présent d'un bouquet de roses attaché avec un ruban tricolore. Virginie travaillait près de la fenêtre. Ses yeux brillèrent à la vue des fleurs. Elle pria la concierge de les lui laisser mettre dans un vase. Morin lui vit prendre les roses avec plaisir, dénouer le ruban qu'elle jeta d'un air de dégoût, et il trouva, dans cette insulte à ses convictions les plus chères, une raison d'admirer celle qui en était l'auteur. Comme il sortait de chez sa tante, le petit Pierre l'arrêta, mit un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence, et après lui avoir adressé un clignement d'œil significatif, l'entraîna, en marchant sur la pointe du pied, jusqu'à l'autre bout de la rue. Quand il fut bien sûr que les habitants de l'hôtel ne pouvaient ni le voir ni l'entendre, l'enfant se retourna vers son cousin et lui dit d'un air mystérieux « Elle sort à pied. »« Eh bien, » répondit Jean à demi-curieux, et à demi fâché d'avoir été troublé dans sa rêverie. « Mais ce n'est pas bien du tout, c'est très mal, » répliqua le petit Pierre. « Est-ce que dans le quartier on la soupçonne ? Car, vois-tu, Pierrot, j'ai mon idée, c'est une aristocrate, et si les gens... Non, mais elle sort tous les jours, c'est-à-dire depuis hier. Je l'ai suivie, elle rencontre un jeune homme, un de ses amis, car elle lui parle de tout son cœur, et lui aussi. Maman ne peut pas deviner qui cela peut être. « Est-ce que ma tante l'a vue ? Ah, bien oui. C'est tout au plus si je peux entrevoir ses épaules, un dos que je crois reconnaître et auquel je ne peux pas mettre un nom. Quand ils se séparent, on dirait des moineaux qui s'envolent. Les voilà bien en train de causer. Les deux têtes chuchotent, l'une contre l'autre. Bon, que je dis, je vais les surprendre. Mais bah, le monsieur disparaît, et Mademoiselle Cane est auprès de moi que je n'y ai vu que du feu. Elle n'a pas vu que tu la suivais ? Demanda Morin d'une voix si altérée que son cousin Pierre leva les yeux et resta frappé de sa pâleur et de ses traits contractés. Néanmoins, faisant un effort sur lui-même, le pauvre Jean tâcha de sourire, remercia le petit Pierre de ses informations et lui donna 5 francs pour qu'il continuât d'épier Mademoiselle Cane. Le gamin, enchanté de cette aubaine, revenait d'un pas rapide en s'amusant à jeter en l'air son gros écu lorsqu'il fut heurté par un gaillard qui saisit la pièce au vol et s'en fut en le raillant. Personne ne passait dans la rue. Notre gamin n'était pas assez fort pour se faire rendre l'écu, et rentra en pleurant dans la loge de sa mère. Virginie était seule. Elle fut touchée des larmes du petit garçon, et elle lui demanda ce qu'il avait. « On me l'a volé, » répondit-il en sanglotant. « Et qu'est-ce qu'on t'a volé ? » reprit la jeune fille. « Ma pièce de 5 francs, » répliqua le petit Pierre d'une voix tremblante. Il avait peur que Mademoiselle Cane ne lui demandât par quel moyen il s'était procuré une somme aussi considérable, mais elle était loin d'y penser. Elle alla dans sa chambre, d'où elle rapporta une petite bague ornée de rubis. « Prenez cet anneau, » dit-elle à Pierre, « et portez-le chez un bijoutier. Ce n'est pas d'une grande valeur, néanmoins, cela vaut bien 5 francs. » Le gamin refusa d'abord, Un vague sentiment d'honneur flottait dans son esprit. Virginie insista. « Vous me ferez plaisir, » poursuivit-elle. « Et si on vous en donne plus de 5 francs, vous me rapporterez la différence. C'est un service que vous me rendrez. » Pierre ne demandait pas mieux que d'être convaincu. Après tout, rien ne le forçait d'épier Mademoiselle Cannes. Il pouvait accepter ses offres et voir ensuite ce qu'il aurait à faire. Elle ne lui imposait pas de conditions. Il restait libre à son égard. Bref, il prit l'anneau, garda 5 francs et en rapporta 10 à la jeune fille, tant il avait déployé d'habileté dans la vente qu'il avait faite. C'est alors que, suivant ce qu'il s'était dit à lui-même, il réfléchit à la conduite qu'il devait tenir. Il n'avait rien promis à Mademoiselle Cannes, mais il sentait que son dévouement était acquis à la jeune fille. Par malheur, il s'en rapportait à lui du soin de juger quel était le moyen le plus efficace de la servir. Et l'attachement que lui avait inspiré sa nouvelle amie rendait son zèle beaucoup moins désintéressé qu'il ne se le figurait. Combien il serait agréable, pensait-il, d'avoir pour parente une personne aussi généreuse. Comme il supporterait facilement toutes les contrariétés qui pourraient lui advenir s'il avait auprès de lui une pareille consolatrice. Quel bonheur de s'en faire aimer, de la servir, de la protéger. Et tout d'abord, cette protection, qu'il serait si fier et si heureux de lui donner, même sans qu'elle le lui demandât, ne lui imposait-elle pas l'obligation de découvrir quelle était la nouvelle connaissance que Mademoiselle Cannes avait faite? On était si souvent dénoncé par de prétendus amis. Vous voyez qu'il arrivait au même but en obéissant à ce qu'il croyait être son devoir, qu'en suivant la route que lui avait indiqué l'intérêt. Nous sommes presque tous ainsi. Quand une chose nous convient, il n'est pas d'argument que nous ne sachions trouver pour faire capituler notre conscience. Quelques jours après la vente de la bague, Pierre avait si bien guetté Virginie qu'il savait, à n'en pas douter, que l'inconnu qui donnait des rendez-vous à la jeune fille était le fermier normand sous différents costumes. Quelle nouvelle importante à confier à Jean Morin. Mais Pierre ne s'attendait pas à l'effet que cette révélation produisit instantanément sur le pauvre amoureux. L'idée ne vint pas à celui-ci que l'individu en question pût être un parent de Mademoiselle Cannes, ou tout au moins une ancienne connaissance. Il ne vit qu'une chose dans le fait que lui apprenait Pierre. Son idole était en relation avec un homme jeune et beau dont elle était nécessairement aimée. Autant que je puis le croire, d'après ce qu'on m'en a dit, le fils de Madame Babette, Morin, était l'un de ces hommes passionnés chez qui l'amour absorbe tous les autres sentiments et dont la vie se concentre sur un seul objet. Peu démonstratif malgré la violence de son affection, il était d'une jalousie ottomane. Il eût fait tout au monde pour satisfaire les désirs de Virginie. Il aurait battu monnaie avec son sang pour l'entourer de luxe et eût été l'esclave de ses moindres caprices, mais à condition qu'elle n'eût respiré que pour lui. Ainsi que me le disait Pierre, il aurait étranglé un oiseau si la pauvre créature avait attiré les regards de la femme qu'il aimait. Aux premières paroles de son cousin, Jean était resté foudroyé. La rencontre de Mademoiselle Cannes et du Normand n'était pas accidentelle. Pierre le torturait en lui faisant part de ses découvertes. « Chaque matin, disait le petit garçon, Mademoiselle Cannes se promène et le rencontre. Il se voit qu'un instant, mais tous les jours et quelquefois matin et soir. » « Tous les jours !» reprit Morin d'une voix étranglée. « Tous les jours, elle lui parle, et c'est tout au plus si j'obtiens qu'elle me réponde. » Pierre fut si effrayé de la pâleur de Morin, de ses yeux hagards, de ses mouvements convulsifs, qu'il se précipita dans un cabaret du voisinage et en rapporta un verre d'absinthe qui fut payé par la pièce de 5 francs que lui avait donnée Virginie. Morin finit par recouvrer son sang-froid, mais il resta d'humeur sombre. Et il fut impossible à Pierre d'en arracher un mot, si ce n'est toutefois que le Normand devait être prié d'aller coucher ailleurs et de ne pas remettre les pieds à l'hôtel du Guesclin. Il était trop absorbé dans ses réflexions pour songer à rendre les 50 centimes qu'avait coûté le verre d'absinthe. Et Pierre, à qui cet oubli fut sensible, porta cette faute de Morin à l'avoir de Mademoiselle Cannes. Le fils de Dame Babette était en outre fort désappointé de l'accueil qui avait été fait à sa révélation. Il s'attendait à recevoir encore 5 francs, ou tout au moins confidence pour confidence, et il en voulut tellement à l'amoureux qu'en entendant soupirer Virginie, à l'heure où le Normand rentrait chaque soir, il fut sur le point de tout raconter à la jeune fille, et l'aurait fait certainement s'il n'avait eu peur de Dame Babette. Il fallait que celle-ci fût bien dévouée à Jean Morin pour avoir congédié le beau Normand, l'un des locataires les plus généreux et les plus polis qu'elle eût jamais hébergé. Toutefois, la semaine ne s'était pas écoulée que Pierre soupçonna que de nouvelles relations s'étaient établies entre les deux jeunes gens. Quant à deviner par quels moyens ils communiquaient ensemble, le fils de la concierge ne pouvait y parvenir en dépit de ses efforts. Virginie sortait tous les jours pendant quelques minutes. Elle flânait dans le quartier et s'arrêtait invariablement à la boutique d'une échoppe où étaient des bouquets de fleurs diverses. Mais elle examinait aussi les bonnets et les fichus qui étaient exposés à la montre des boutiques bornes qui se trouvaient sur son passage. Et l'enfant ne voyait rien d'extraordinaire à ce qu'elle s'arrêta devant les fleurs, puisqu'elle regardait l'étalage de tous les magasins. Morin fils venait voir sa tante à peu près tous les jours, sans que Virginie parût se douter que c'était pour elle qu'il visitait la portière. Néanmoins, elle était plus joyeuse, se portait mieux qu'autrefois, et cherchant par tous les moyens possibles à témoigner ses gratitudes à Madame Babette, elle s'efforçait de répondre aux politesses de Morin, et le faisait avec sa grâce qui donnait tant de charme à ses moindres paroles. Tous ceux qui l'ont connue parlent encore de ses manières séduisantes, de sa douceur, des mille attentions qu'elle avait pour les autres, bien qu'elle possédât une force de volonté peu commune et que ses principes, quelquefois même ses actes, fussent de nature à indiquer un caractère résolu. Ses traits, comme je l'ai dit plus haut, n'avaient rien de remarquable, et cependant, tous ceux qui l'ont approchée semblent avoir subi l'influence qu'elle exerçait autour d'elle. M. Morin en était arrivé pendant ces derniers jours à tout sacrifier pour obtenir Mademoiselle Cannes. Il la dévorait du regard toutes les fois qu'elle ne pouvait pas le voir, me disait le cousin Pierre, et baissait les yeux bien vite s'il rencontrait les siens. Il était sans doute confus de l'agitation qu'il avait montrée lorsque le fils de la dame Babette lui avait fait son rapport, car depuis cette époque, il évitait sa présence, et il aurait pu croire que son rival était banni de la pensée de Mademoiselle Cannes aussi bien que de l'hôtel. Cependant, il ne tarda pas à sentir qu'il faisait peu de progrès dans le cœur de Virginie et rechercha de nouveau l'assistance du petit Pierre sans néanmoins lui confier son amour. Le petit Madré feignit de ne pas s'apercevoir des avances de son cousin. Il fit semblant de penser que les questions du pauvre amoureux avaient trait à Madame Babette et parut tellement sourd à toutes les insinuations de Morin qu'il obligea celui-ci à lui faire un aveu complet. Il fut alors effrayé de ce qu'il lui fallut entendre. La lave s'échappa avec d'autant plus de violence qu'elle avait été plus longtemps comprimée. C'est au travers de sanglots convulsifs que la voix rauque de Morin dit à l'enfant ce terrible amour de l'homme du peuple pour la fille du comte, et que le neveu de Madame Babette confessa qu'il tuerait plutôt son idole que de la voir appartenir à un autre. « J'avais peur, me dit Pierre, et cependant j'admirais mon cousin, c'était de l'amour véritable, une grande et belle passion, comme on voit au théâtre. » Bref, il se reprit à aimer Jean Morin 10 fois plus qu'auparavant, et jura par tous les dieux infernaux, à cette époque on était trop éclairé pour en avoir un seul, il jura de se mettre corps et âme au service de cette passion qui le fascinait. Dans sa joie d'avoir retrouvé un si précieux auxiliaire, Jean conduisit le gamin chez un orfèvre, lui acheta une montre d'occasion en argent sur lequel on grava le mot « fidélité ». Et le pacte fut conclu. Pierre se disait en lui-même que, s'il avait été femme, il aurait voulu être aimé comme Virginie l'était par son cousin, et que ce serait un grand bonheur pour elle d'épouser un homme aussi riche que M. Morin fils. C'était donc une bonne action que de concourir à faire ce beau mariage à Mademoiselle Cannes, mariage qui d'ailleurs devait rapporter à l'intermédiaire des bagues, des montres et des écus de 100 sous à perpétuité. Le lendemain, Virginie eut la fièvre. Madame Babette l'attribua aux promenades de la jeune fille qui aujourd'hui sortait par tous les temps après avoir gardé la chambre pendant des mois entiers. La concierge avait raison, mais l'impatience augmenta la fièvre de la recluse et en dépit du frisson, de la toux et de la courbature, Mademoiselle Cannes serait sortie comme à l'ordinaire si Madame Babette ne s'y était pas formellement opposée. Le troisième jour, Virginie, profitant d'une minute où elle était seule, pria le petit Pierre de lui rendre un service. « Allez, je vous en prie, lui dit-elle, chez le fruitier de la rue des Bons Enfants. Vous y verrez des fleurs. Regardez-les bien. Voilà 2 francs pour vous. J'ai une envie excessive d'avoir des œillets. Rapportez-moi ceux que vous trouverez dans cette maison. Quand même, ils seraient fanés. C'est ma fleur favorite et j'ai besoin d'en respirer l'odeur. » Pierre sortit en courant. Il allait donc tout savoir et comprendre le motif de ces longues stations devant l'étalage de la fruitière. Il ne se trompait pas. Un bouquet d'œillets blancs se trouvait bien à la fenêtre. Il entra dans l'échoppe, dissimula son impatience, afin d'avoir le bouquet à bas prix, faisant valoir qu'il était tout fané et l'eut presque pour rien. « C'est maintenant, poursuivit Lady Ludlow, en poussant un long soupir, que vous allez comprendre tout ce qu'il y a de dangereux à enseigner aux gens du peuple autre chose que ce qui leur est nécessaire pour gagner leur pain quotidien. Le comte de Courcy, pauvre niais, qui fut mis à mort par cette canaille dont il se préoccupait tant, et qui avait inculqué à sa fille les vaines théories qui poussèrent la pauvre créature à refuser son cousin, le comte de Courcy avait été frappé de l'intelligence du petit Pierre qu'il rencontrait parfois jouant dans sa cour. Voulant mettre en pratique ses folles idées sur l'éducation du peuple, il s'imagina d'instruire lui-même le fils de sa concierge, occupation rebutante qui le fatigua bientôt. Madame Babette, d'ailleurs, n'était plus à sa porte. Néanmoins, il continua de s'intéresser au petit Pierre, et s'arrangea de façon que ledit Marmot pût apprendre à lire, à écrire, à calculer, et je crois même, Dieu me pardonne, qu'il fut question de latin. Il en résulta qu'au lieu d'être un innocent messager, comme il eût été sans cela, et comme le fut resté ce petit Gregson que M. Horner m'a envoyé aujourd'hui, le fils de Dame Babette, l'enfant de la portière du comte, sut lire et écrire aussi bien que vous et moi. Qu'arriva-t-il? C'est que Pierre avait à peine le bouquet entre les mains, qu'il en dénoua la ficelle, et que du milieu de la mousse qui entourait les fleurs, il tomba un chiffon de papier où se trouvaient quelques mots couverts de moisissures. Le maudit Pierre ne manqua pas de le ramasser et d'en lire le contenu. Chaque jour à 9 heures du soir. « Tout est préparé, » disait l'auteur du billet. « Ne redoutez rien. Confiez-vous sans crainte à celui qui, malgré l'espérance qu'il a pu nourrir jadis, est heureux de vous être utile en qualité de fidèle et bon cousin. Suivez le nom d'un endroit que j'ai oublié, mais que Pierre eut bien soin de graver dans sa mémoire, car évidemment, c'était le lieu du rendez-vous. Quand le fils de la concierge eut appris par cœur ces quelques lignes, il remit le papier à la place où il l'avait trouvé, l'enveloppa de mousse et rattacha le bouquet avec le plus grand soin. Virginie devint écarlate en recevant cette botte d'œillet fanée. Elle la respira en tremblant et n'osa pas la défaire malgré les conseils du gamin qui insistait pour qu'elle mît ses fleurs dans l'eau. Pierre fit semblant de partir, puis se retournant tout à coup, il vit le bouquet dénoué et la jeune fille qui, tout émue, cachait un papier dans son corsage. Cette fois, il se hâta de sortir afin d'aller trouver Morin et de lui transmettre le contenu du billet. Ce petit Gregson a quelque chose du regard de Pie de ce malheureux petit Pierre. J'en ai frémi en l'entendant répéter mot à mot la lettre qui m'était adressée. Morin pria l'enfant de lui dire une seconde fois les paroles qu'il avait lues. Puis, craignant de les oublier, car il était dans un trouble excessif, il essaya de les écrire. Ne put en venir à bout, soit qu'il tremblât trop fort, soit qu'il fût malhabile. Tant il y a que c'est encore ce petit Pierre, avec sa maudite instruction, qui transcrivit sur le carnet de son cousin le billet du pauvre Clément. La chose faite, Jean Morin tomba dans un morne silence, au grand déplaisir du fils de la concierge qui espérait une nouvelle scène de fureur passionnée. Il fallut que le gamin adressât plusieurs questions à l'amoureux pour en tirer quelques paroles, et celles qu'il finit par obtenir furent si loin de répondre à sa pensée qu'il trembla que son cousin n'eût perdu la raison. « Ma tante n'a plus de café. » dit tout à coup Morin fils. Je ne sais pas, répliqua l'enfant. J'en suis sûr, reprit le jeune homme. Va lui dire qu'elle vient de me trouver d'ici à 1 heure chez un épicier de la rue Saint-Antoine, numéro 150, au bonnet de la Liberté. C'est un de mes amis qui tient la boutique. Il a du café excellent et je ferai la provision de ta mère. Si j'allais avec toi, répondit le gamin, je suis plus fort que maman et je rapporterai mieux qu'elle un sac de... Pierre m'a dit n'avoir jamais oublié le regard de son cousin lorsque celui-ci, l'interrompant, lui ordonna d'obéir sans réplique. Madame Babette, surprise et reconnaissante, alla rue Saint-Antoine et revint 2 heures après, chargée d'excellent café, mais l'air grave et la bouche close. C'était pour lui arracher le nom de Mademoiselle Cannes que son neveu l'avait attiré chez l'épicier. Non pas qu'il attachât d'importance à la famille de Virginie, mais il voulait connaître ce fidèle et bon cousin dont il était question. Madame Babette refusa tout d'abord de lui répondre. Bien qu'elle ignorât le motif de sa curiosité, elle sentait vaguement que ce désir d'en savoir davantage au sujet de Virginie était de mauvais augure. Morin devint plus pressant. Une fois marié, il serait riche. Son père lui donnerait la moitié de sa fortune, qui était considérable, et la tante ne serait pas oubliée. On assurerait son avenir le jour même du mariage. Cependant, Babette ne disait rien. Les menaces succédèrent aux promesses. On la renverrait de l'hôtel, on la dénoncerait au comité de salut public pour avoir donné asile à une aristocrate. La pauvre femme répondit vainement à son neveu que ce serait exposer à la mort la jeune fille qu'il aimait. Il finit par effrayer sa tante au point que Madame Babette avoua que Mademoiselle Cannes était la fille du comte de Courcy. Mais le comte avait un frère. Assurément. Où est-il? Mort depuis bien des années. Sans enfant. La concierge hésita. Elle reprenait courage en songeant à la famille de ses anciens maîtres et refusa de nouveau de répondre à Jean Morin. Mais quelques petits verres de cognac lui eurent bientôt délié la langue. Et c'est pour en avoir dit plus long qu'elle ne l'aurait voulu que la pauvre femme, dégrisée, rentrait chez elle d'un air inquiet et malheureux. Pierre essaya de la questionner. Il en reçut un soufflet pour toute réponse. Furieux de ce traitement auquel Dame Babette ne l'avait pas habitué, mécontent de la mauvaise humeur de son cousin, il se rappela que Mademoiselle Cannes avait toujours été bonne pour lui, et résolut de tout lui dire. Mais il craignit la vengeance de Morin, et continua d'épier Virginie en silence. Vers 8h30 du soir, il la vit faire quelques préparatifs. La concierge paraissait endormie. La jeune fille allait et venait bien doucement pour ne pas la réveiller. Elle fit deux paquets et sortit de sa chambre après en avoir caché un sous sa robe et déposé l'autre sur une planche. « Elle va partir », se dit Pierre qui sentit battre son cœur en pensant qu'il ne la verrait plus. S'il n'avait pas été fâché contre Morin, il aurait éveillé Dame Babette afin qu'elle s'opposât au départ de la jeune fille. Mais dans l'état des choses, il retint son haleine et fit semblant d'être absorbé par sa lecture, désirant, au fond de l'âme, que Mademoiselle Cannes pût réussir dans l'entreprise qu'elle tendait. Elle s'arrêta en passant, lui posa la main sur la tête et le baisa doucement au front. Les yeux du gamin s'emplirent de larmes. Il regarda sa mère avec inquiétude, mais celle-ci dormait toujours et Virginie s'éloigna. Le cœur de Pierre battit plus fort. Morin devait être aux aguets. Il arrêterait la jeune fille. L'enfant n'en doutait pas et voulait suivre Mademoiselle Cannes, cette fois pour l'avertir. Mais il était trop tard. Il craignait d'ailleurs de réveiller Dame Babette et de subir sa colère.